Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de On va se faire foutre. Le 14e numéro de On va se faire foutre, c'est aussi le premier du mois de juin. Et comme vous le savez, au mois de juin, c'est la fin du bal qu'on paye les musiciens. On arrive au moment des phases finales et des finales de foot. Donc, c'est un numéro qui va être placé sur le site des finales européennes, puisque cette semaine, on n'aura pas droit non pas à une, mais à deux finales européennes. Mais avant ça, on va faire un retour sur la 38e journée de Ligue 1 et faire un bilan finalement de cette saison de championnat de France. Et on parlera également un petit peu, voire beaucoup, de top 14. Avec moi pour m'accompagner ce soir, on a Marc Abaye, près du Saint-Laurent, visiblement.
Salut à tous.
Et Daniel Montero, qui n'est pas à Lisbonne et qui n'est pas à Londres, mais qui est à Salvador de Bahia, au pays du football.
Bonsoir à tous.
Ouais, ou bonjour, hein, pour toi, c'est l'après-midi, là, visiblement.
Ouais, c'est bonjour, ouais. On a 4 heures.
Donc, bah, écoutez, sans plus tarder, je vous propose de démarrer avec notre premier thème, donc un thème Ligue 1. Voilà, la semaine dernière, on avait fait un bilan du championnat portugais. Et il est temps cette semaine de tirer un bilan sur le championnat français. Donc, le Paris Saint-Germain est une nouvelle fois champion de France. Il est aujourd'hui le recordman de trophées en France, hein, puisqu'il a 11 championnats de France, 14 Coupes de France et une petite Coupe d'Europe, pour ainsi dire. Donc, c'est désormais le club le plus titré de France. Lens est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Marseille passera par les tours préliminaires, parce qu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le troisième doit passer deux tours préliminaires. Rennes, ainsi que le Toulouse Football Club, seront en Europa League. Et Lille, qui a trébuché sur cette dernière journée, sera en Europa Conférence. Dans la bagarre pour ne pas descendre en Ligue 2, donc la dernière place, pour faire plaisir à Dany pour la Ligue 2, a été distribuée à l'AJ Auxerre. Enfin, distribuée. Ils ont reçu une belle rousse, en tout cas, de la part de Lens. Et c'est Nantes qui se sauve in extremis après 4 mois sans victoire. Donc, comme la semaine dernière, en fait, ce que je vous propose, c'est de tirer un bilan. Et donc, qu'est-ce que vous retenez de cette saison de Ligue 1? Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Quelles sont vos surprises et quelles sont vos déceptions? Donc, cette fois-ci, on va commencer par Marc, qui n'était pas là la semaine dernière. Donc, Marc, je t'en prie, tu as évité le championnat portugais, mais on attend avec
Oui,
impatience
merci.
ton analyse sur le championnat de France.
Je suis bien content. Bon, ben déjà, ça a été un championnat qui nous a maintenu en haleine pas mal de temps cette année quand même, hein. Je vais commencer par le champion, honneur au vainqueur, que je mettrai dans les déceptions. Oui, ils ont gagné, effectivement, ils sont champions, mais en même temps, on est quand même assez clairs tous les trois. Enfin, en tout cas, moi, je ne me voile pas la face. Je considère que le championnat français est un championnat qui est assez faible et que Paris, ben, est champion finalement parce que, ben, il a de l'argent et parce qu'il a du talent. Voilà, il a des joueurs à talent. Qui sont bien au-dessus de la moyenne, et que cette année, même si Paris est champion, je considère que c'est un des plus mauvais Paris Saint-Germain depuis l'ère Qatari. Je pense que je deviens presque nostalgique des années Ibra, finalement, où l'équipe se construisait au tout début de l'ère Qatari. Je trouve que cette année, Paris, c'est vraiment perdu, perdu, perdu. En faisant des choix de recrutement très compliqués, en proposant un jeu très faible et en ayant beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites en 2023. Je ne sais plus combien ils sont classés sur la deuxième partie du championnat, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient premiers.
Ils sont troisième, je crois. Troisième ou
Voilà.
deuxième?
Ouais, troisième. Ils sont troisièmes. Donc pour moi, c'est une grosse déception. Et l'an dernier, on avait parlé d'un grand coup de balai à Paris. Où on allait soi-disant se séparer de Starlet, etc. Ça n'a pas été fait. On a recruté pas intelligemment. Et ça, je trouve que ça a donné vraiment une année très, très, très médiocre de Paris, y compris en Europe, hein. Donc.
En fait, moi, je vais rebondir sur tes déceptions. On va faire le tour des déceptions et puis après, on reviendra sur les
Voilà.
actions et les surprises. Sur les déceptions, moi, ce que je mets en numéro un sur les déceptions, c'est Monaco. Tu parlais de Paris, mais plus que Paris, parce que Paris, ils sont champions au final. L'équipe qui se trouve véritablement sur ce championnat, au vu de son effectif, c'est Monaco. Ils étaient sur une lancée l'an dernier, je crois, où ils terminent premier des matchs retour. Ils échouent, je crois, à un point de la qualification directe en Ligue des Champions et finalement, ils sont obligés de passer par le tour préliminaire. Donc finalement, il continue avec le même entraîneur parce que l'entraîneur est arrivé, je crois, en janvier. Il avait fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Donc il continue avec Philippe Clément. Il renforce l'effectif. Moi, je l'avais déjà dit dans cette émission, mais je pense que Monaco, cette année, ils avaient la ligne d'attaque la plus forte de France. Parce qu'ils avaient non seulement Ben Yedder, ils avaient toujours Kevin Volland qui avait fait un championnat incroyable l'an dernier. Ils ont recruté en plus Mbolo et ils avaient Golovin et ils avaient Ben Seghir qui s'est révélé cette année. Plus quelqu'un qu'on connaît très très bien au Portugal, qui est un joueur formidable, Gelson Martins, qui a quasiment pas joué de la saison. Donc c'est l'équipe qui avait la puissance offensive sans doute la plus impressionnante. Par contre, en défense, ils s'étaient affaiblis, c'était un peu plus compliqué. Ils avaient perdu Tchouaméni au milieu quand même. C'était quand même pas une petite perte. Et en fait, ben on voit que tout au long de la saison, en fait, sur la durée complète de la saison, ils n'ont pas compensé l'absence de Tchouaméni, même s'ils avaient un milieu de terrain pas mal. Ils ont perdu Tchouaméni et Sofiane Diop, qui est parti à Nice, qui étaient quand même les deux meneurs de jeu l'an dernier de l'AS Monaco. Donc en ayant perdu ça, ils se sont très très affaiblis. Ils ont quand même fait une bonne première partie de championnat. De janvier à mars, ils étaient injouables. Ils gagnent tous leurs matchs. Ils étaient premiers sur les matchs retour. Et ce qui leur a fait mal, pour une raison que je ne comprends pas, je pense qu'ils se voyaient la gagner, c'est l'élimination contre Leverkusen au retour à Monaco. Alors qu'ils avaient gagné 3-2 à Leverkusen, ils trébuchent au péno. Ils s'en sont jamais relevés. Après, le groupe est parti en cacahuète. Par contre, là où c'est intéressant, là où on peut faire le rapprochement avec le Paris Saint-Germain, c'est que Monaco, comme le Paris Saint-Germain, on voit qu'en termes de direction sportive, de présidence, de directeur sportif, tout ça, les joueurs stars ne sont pas tenus. Donc on voit on a des stars qui sont placées dans un certain confort et qui, à un moment donné, ne jouent plus le jeu.
Il y a vraiment une cassure depuis l'ère Jardim, finalement, le début du projet aussi, quand ils sont arrivés, hein, la nouvelle présidence avec les nouveaux investissements, on a fait venir des stars, puis on a rivalisé avec Paris, on les a même battus une année, Monaco a été champion.
Ah ouais.
Devant Paris, et puis il y a une cassure après, petit à petit, où le club a basculé vers j'achète et je revends, vraiment dans ce type de club qui est vraiment sur le court terme, a finalement bonifié ses joueurs pour les revendre, et c'est difficile de construire sur l'avenir finalement, hein. On s'en rend compte en tout cas la difficulté.
Ouais, mais tu connais l'histoire du rachat de l'AS Monaco, ou tu connais le problème de Ribolief. Ben, Ribolief, je crois de ce que j'ai lu et de ce que j'ai entendu, Monaco lui sert à cacher de l'argent qu'il ne veut pas donner à sa femme, à son ex-femme, dans l'histoire du divorce.
Ouais,
Et
ça c'est
surtout que le club ne fasse pas trop de bénéfices. C'est-à-dire qu'il s'est servi de l'AS Monaco au début, il a investi massivement pour liquider sa fortune pour pas que son ex-femme récupère de l'argent, et il a essayé de récupérer cet argent par les plus-values, une fois qu'il était divorcé, récupérer les sommes et bien plus qu'il avait investi. Donc l'AS Monaco, au départ, ça a été une machine à blanchir de l'argent dans une procédure de divorce. Donc c'est assez particulier, mais ça a servi à l'AS Monaco. On n'est pas tous capables de faire ça dans une procédure de divorce. On a connu ça tous les trois. Auquel cas, on aurait déjà gagné le championnat de France. Mais là, alors, et avant de donner la parole avec toi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le Paris Saint-Germain. Mine de rien, Paris, ils font une saison qui est hyper difficile à analyser parce qu'ils font une première partie de championnat qui est extraordinaire. Ils perdent pas un match. Ils font des matchs où moi, je n'avais jamais vu une équipe française jouer comme ça. Notamment, si je ne sais pas si vous vous souvenez, le déplacement à Lille où ils vont coller 7-1 à Lille sans qu'il y ait débat, mais du début à la fin. Ce match-là est une perfection. Et ils arrivent en fait à la trêve de la Coupe du Monde. Ils sont déjà champions en fait, les mecs. Ils sont déjà champions et c'est vrai qu'on avait analysé ça dans les premières émissions. Cette saison avec une coupure de 2 mois liée à la Coupe du Monde fait que après la Coupe du Monde, on a démarré une nouvelle saison presque.
Ouais, tu
Et
redistribues les cartes.
qu'on s'est retrouvé avec des joueurs, surtout Paris, les joueurs qui avaient beaucoup d'internationaux, qui ont eu beaucoup de mal à redémarrer. À la fin, ils sont champions avec quasiment 87-88 points. C'est pas un record, mais c'est quand même, en termes de points, c'est pas un champion dégueulasse. Même le Lyon de la grande époque, parce que tu parlais de Lyon, arrivait rarement à 88-89 points, tu vois. Donc c'est quand
Ouais,
même.
mais le championnat était plus compétitif, je considère, dans les années
Alors, pas
2000.
trop, pas, non, pas du tout. À l'époque, tu parouillais Lyon, il n'y avait aucune compétition.
Mais
Champion,
Paris,
avec 15
ce que
points
tu dis de
d'avance, ils
Paris,
arrivaient à peine à 85-84 points, tu vois.
ce que tu dis de Paris, on peut le dire tous les ans. Ils commencent très fort et puis après, ils voient qu'ils sont en tête et ils pensent plus qu'au mois de mars. c'est-à-dire à la Champions League. C'est
Ouais, mais c'est
une
normal.
obsession.
C'est pas.
Oui, c'est normal, sauf que c'est pas normal de faire une saison, une année 2023 comme ils l'ont fait. Elle est catastrophique. Elle est cataclysmique à tous les niveaux.
Pas là,
Décourageant,
attends,
en fait.
je suis pas d'accord avec toi sur le recrutement parce que au mois d'octobre, on était tous d'accord pour dire que Vitinha, c'était un recrutement extraordinaire. Le
Ouais,
mec
mais c'est pas ça.
a fait 4 premiers mois, c'était un des meilleurs milieux de terrain d'Europe. Après, comme les autres, après la Coupe du Monde, il s'est éteint. Fabian
Mais
Ruiz,
c'est ça.
pareil, il a fait des matchs
Ouais.
extraordinaires au début, après il s'est éteint, après la Coupe du Monde. Carlos Soler, c'est un bide, je suis d'accord. Et Ekitike, c'est un bide, je suis d'accord. Renato Sanchez, c'est un joueur extraordinaire, mais il a tout le temps été blessé. Mais après, le reste du recrutement, on peut pas vraiment dire ça. Mais je laisse
Donc,
parler Dani. Attends, Dani n'a pas parlé encore.
Ouais, non, mais attends,
Parler
mais
Dani.
tu recrutes un Renato Sanchez finalement qui est toujours blessé. Donc, déjà, la cohérence de le recruter à nouveau, c'est quand même,
Mais il n'était
excuse-moi,
pas
je veux
blessé.
dire,
Les deux
pour
dernières années,
soi-disant
il n'était pas toujours blessé.
le meilleur directeur sportif ou un des meilleurs, c'est quand même un choix très surprenant, excuse-moi.
Mais non, je ne suis pas d'accord avec toi. Les 2 années à Lille, il n'est pas blessé. Vas-y, Dani.
Par rapport au bilan, ouais, ce que vous disiez, moi je suis un peu d'accord en fait avec vous deux, parce qu'on se rejoint sur un point, c'est qu'on est tous d'accord que dès le départ au niveau du championnat français, on sait qu'il va être champion. Donc c'est vrai que la déception, enfin moi, si on peut parler de déception de championnat, c'est que c'est un championnat où tu sais que dès la première journée, voilà, il va pas y avoir grosse surprise sur le premier du classement, et ça c'est un peu décevant d'un point de vue compétitif. Parce qu'on sait que voilà, à la fin, tout le monde va jouer et qui va gagner, c'est le PSG. Moi, là où je rejoins Mehdi, c'est sur si on se cantonne véritablement au championnat français sans parler du contexte européen, je pense que pour moi, la grande déception du championnat, ça reste Monaco. Monaco et Lyon, j'inclurais Lyon, mais plutôt Monaco parce que quand tu isoles, tu retires le PSG du championnat. Monaco, c'est la meilleure attaque du championnat. Et tu as raison sur ce que tu disais, ils ont un potentiel offensif incroyable et ils finissent meilleure attaque, si on enlève le PSG, bien sûr, du championnat. Par contre, et tu l'as dit, ils ont des défaillances au niveau défensif, après les départs que tu as cités,
Et le
ce qui
gardien même.
fait
Le
qu'ils ont.
gardien, c'est une catastrophe.
Et le gardien, ouais, c'est une catastrophe. Donc, du coup, ils ont encaissé énormément de buts, et ils finissent à plus 12 en termes de goal average. Donc, ce qui est quand même assez surprenant pour une équipe comme celle de Monaco. Et il ne faut quand même pas oublier que, mis à part le PSG qui a 700 millions d'euros de budget au niveau du championnat français, donc c'est un budget qui est hors classement par rapport au reste, on a quand même Marseille, Monaco et Lyon qui ont le même budget. Ils ont autour de 250 millions d'euros. Et donc, Marc l'a dit, là je suis d'accord avec toi, je pense que Marseille a fait le job. Ils sont dans les trois premiers. Ils vont pas directement en Ligue des Champions, mais ils vont participer comment dire,
En préliminaire. En
voilà,
préliminaire.
au tour préliminaire. Merci. Et par contre, voilà, Lyon et Monaco, ils sont même pas européens.
Ouais,
C'est-à-dire que
clairement.
c'est vraiment un échec total
Ah ouais.
par rapport à ça. Et si tu mets en face, on y reviendra après sur les bonnes surprises de championnat, tu mets en face Lens qui finit deuxième, c'est 62 millions d'euros de budget. Donc c'est presque 10 fois moins que le PSG. Enfin, c'est plus que 10 fois moins que le PSG. Donc globalement, la déception, en tout cas pour moi, elle est plus d'un point de vue compétitif où on comparait l'autre jour, on parlait du championnat portugais, mais dit. Marc était pas présent, mais on disait qu'effectivement, c'est des championnats qui sont peu intéressants parce qu'on sait qu'au final, qui va gagner, c'est Benfica, Porto ou Sporting, actuellement plutôt Sporting ou Porto. Bah là, le championnat français, on est un peu dedans, quoi. On sait que voilà, qui va gagner, c'est le PSG. La question, c'est savoir qui va être deuxième et qui va être troisième. Donc, c'est moi, ma déception, elle est là, en fait. Et même si je suis un supporter du Paris Saint-Germain, ça m'attriste un petit peu. De démarrer un championnat et de savoir qu'au final, on va s'intéresser plus à qui va finir deuxième, troisième, et après, en fin de championnat, qui va être relégable ou pas.
Qui est intéressant pour faire le parallèle avec le débat qu'on a eu la semaine dernière sur le championnat portugais, tu faisais remarquer que dans le championnat portugais, tu avais des clubs européens avec un goal average négatif. Alors,
Exact.
ce n'est pas forcément le cas en France. Pas forcément le cas en France. Ça n'est pas du tout même, puisque Monaco, qui est le premier non européen, ils ont un goal average positif. Et mine de rien, on a un championnat qui, au final, a été serré, puisque Lens, finalement, meurt à un point du Paris Saint-Germain. Donc le championnat était un peu plus serré que ce qui m'y paraît. Et moi, ça, pour moi, c'est une petite satisfaction, voire une surprise. On y viendra après. C'est que le championnat, il y avait un peu plus de densité vers le haut. Par contre, moi, c'est une déception par rapport au niveau du championnat français. Quand tu le compares aux autres championnats européens, c'est le championnat où, en bas de tableau, on a les équipes les plus faibles. C'est-à-dire que tu prends les cinq grands championnats, tu as le premier non relégable, qui est sur un championnat à 20 clubs, qui a 36 points. Tu prends le championnat d'Espagne, le championnat d'Italie, le championnat d'Angleterre, le premier non relégable, il a 42, 43, 44 points, avec entre 11 et 12 victoires. Nous, on a le FC Nantes qui se maintient avec 6 victoires, ou 7. Ça montre que, en fait, tu as deux championnats. Tu as le championnat des 7 premiers et le championnat des 6 derniers. Voilà. Et entre ben, des clubs qui essayent de faire des coups en coupe. Pas sur tes surprises, alors, sur tes satisfactions.
Mes satisfactions, mais en même temps qui montre aussi, qui conforte un peu l'idée que j'ai que le championnat français, ben, on est à notre place. Hein. C'est voir Clermont-Ferrand finalement déjà finir 8e du championnat, si je ne m'abuse, hein, avec 25 millions de budget. Donc un très très faible budget. Donc finir 8e, ça montre qu'ils ont bien fait le travail, mais ça montre aussi que quelque part, les 10 premiers, les 10 gros et tout ça ne l'ont pas fait, donc correctement. Donc je considère que Clermont-Ferrand est une bonne surprise. Évidemment Lens, mais je pense qu'on est tous d'accord. Lens, c'est un vent de fraîcheur énorme, un entraîneur vraiment qui s'est proposé un jeu qui est vraiment ben, plutôt flamboyant, une équipe qui est cohérente, un public qui est vraiment toujours présent. Ils font mieux que Marseille, ce qui est une petite, comment dirais-je, c'est un peu anormal quand même, parce que Marseille devrait être devant pour moi. Ceci dit, ils font un super championnat, ils ont gagné contre les gros souvent, alors que Marseille n'a pas été capable de faire la même chose. Vraiment, Lens est une super belle surprise. J'ai une petite peur, c'est que ça soit une année. Qui ne sachent pas garder leurs meilleurs joueurs pour l'année prochaine. On a eu peur pour l'entraîneur, il s'est murmuré qu'il y avait des doutes sur le fait qu'il reste. J'espère de tout cœur qu'il va rester cette année encore, parce que c'est maintenant qu'il y a la récompense. La Champions League, ça va être la récompense de cette année, et j'espère vraiment qu'ils vont savoir, comment dirais-je, qu'ils vont savoir garder leurs meilleurs joueurs et puis leur entraîneur. Et pour moi, ça a été un vent de fraîcheur extraordinaire.
Pour te
Une
répondre jusque-là,
semi-déception, hein?
attends, jusque-là, pour te répondre justement sur Lens, ils ont montré qu'ils savaient garder leurs joueurs. Sekou Fofana était hyper convoité par le Paris Saint-Germain l'été dernier. Ils l'ont fait prolonger. Là, on a vu que hier, Lens a refusé une offre de 30 millions d'euros pour Lewis Openda, qui lui a dit qu'il voulait rester, en plus de surcroît, pour jouer la Ligue des Champions avec Lens. Donc, c'est un club qui, mine de rien, arrive sans aller trop dans la surenchère salariale, puisque là, ils n'ont que 60 millions de budget, à conserver ses joueurs. Donc c'est intéressant et on peut espérer qu'ils arrivent une équipe aussi compétitive que cette année, l'an prochain en championnat. Par contre, la vraie nouveauté pour eux, ça va être de gérer à la fois le championnat et la Champions League. Par contre, moi, je partage tes satisfactions, que ce soit donc Lens, que ce soit Clermont-Ferrand, que ce soit Reims, que tu n'as pas cité, ou que ce soit sans être chauvin Toulouse, puisque c'est un club qui gagne quelque chose cette année. C'est mine de rien, ce sont des clubs qui ont travaillé en se centrant sur le jeu et qui ont proposé beaucoup de jeux. C'est-à-dire que là où il y avait une cohérence tactique, là où il y avait une identité de jeu de club, ben finalement, ces clubs avec moins de moyens, ou en étant promus, ils sont arrivés à exister et à apporter un vent de fraîcheur dans ce championnat-là. Lens, aujourd'hui, ils sont identifiés, ils ont un style de jeu que tu identifies clairement. Reims, depuis que Will Steel est là, c'est la même chose. Toulouse, depuis 2 ans, avec Montagnier, c'est la même chose. Le PSG, aujourd'hui, tu sais pas comment il joue. Tu sais pas.
Ah
Monaco,
non.
tu sais pas comment il joue. Lyon, Laurent Blanc, il change de système quasiment à tous les matchs. Donc finalement, c'est hyper intéressant et effectivement, ça apporte un vent de fraîcheur et c'est même, je dirais, salutaire, puisque finalement, c'est entre guillemets petit club montre que avec c'est pas l'argent qui te permet la réussite dans le foot, ça aide, ça te permet pas la réussite. Ce qui permet la réussite, c'est d'avoir une cohérence tactique, une cohérence identitaire de jeu. Dani?
Ouais, non, pour fermer la parenthèse PSG aussi, c'est moi je suis très déçu de l'arrêt de la saison du PSG. Hein. Clairement, hein, Sur le plan sportif et même sur le plan de l'effectif, ils ont commis des erreurs lamentables. Et tu parlais justement de Lens, tu donnes l'exemple de Lens où il y a vraiment un fond de jeu de Reims même ou même de Toulouse. Moi, je partage complètement ton avis. Et c'est vrai qu'à Paris, voilà, on est un petit peu orphelin de ça. Il n'y a personne en fait dans la structure, que ce soit dans la direction sportive ou au niveau même de l'entraîneur, qui a réussi encore aujourd'hui sous l'ère Qatari d'apporter ça.
Si,
Et c'est ce
si.
qui manque.
La dernière identité de jeu du Paris Saint-Germain, pour moi, c'était Laurent Blanc. Sur le jeu de possession. Après, ça s'est dilité.
Il y a eu
Ouais,
Tourelle pendant la première partie de saison.
ouais, mais
Tourelle,
après
ouais.
Tourelle,
Ouais,
il y
bon,
avait
lui.
Tourelle, quoi.
Bah ouais, mais en même temps, on leur laisse pas le temps. La pression est tellement. T'as eu aussi Carlo Ancelotti qui a commencé aussi très très bien, mais bon, en même temps, on leur laisse pas le temps. Donc le projet, c'est tout de suite et maintenant. Donc ça, c'est un peu décevant. Et effectivement, bon, je suis très très déçu. Et pour revenir sur ce que tu disais, Mehdi, sur l'écart entre le PSG et Lens, moi là, je partage pas ton avis, hein. Je pense que le PSG, il termine à un point d'écart parce qu'ils l'ont voulu, quoi. Maintenant, pour revenir sur Lens, pour moi, oui, c'est la révélation de ce championnat. Moi, j'ai hâte de les voir en Champions League, voir un peu l'ambiance aussi des supporters, parce que c'est un club qui a des supporters formidables. Ça fait des années qu'on les qui comment dire qu'ils ont cette culture en fait de moi j'aime bien ces clubs-là, tu sais, qui ont des cultures un peu de supporters un peu fervents, un peu comme Marseille, dans la lignée de Marseille,
Il y avait
comme à
Strasbourg aussi.
Nice. Ouais, t'avais, ouais,
Sauf
exact.
qu'apparemment, il ne fait pas bon aller à Bollard, c'était une femme.
Ouais, ça,
Si j'en crois les dernières
ouais, ça,
informations.
c'est un autre débat. Donc, moi, j'ai hâte de voir cette équipe en Ligue des Champions parce que justement, ces petits budgets, ils ont faim. Et je trouve qu'ils ont fait un super recrutement. Et comme vous le disiez, s'ils arrivent à garder la structure, l'ossature en fait de l'équipe, et qu'ils arrivent à convaincre justement les agents et les joueurs, parce que les joueurs, tu arrives à les convaincre, c'est les agents aujourd'hui qu'il faut convaincre. S'ils arrivent à les convaincre sur un projet à 1 an ou à 2 ans, non seulement ils vont valoriser davantage sur le marché, sur ce marché-là, et l'an prochain ils vont faire le jackpot avec le passage en Ligue des Champions. Et c'est une équipe qui peut être une surprise justement l'année prochaine. Après, il va falloir trouver un équilibre entre le championnat effectivement et la Champions League. Là, c'est un autre sujet. Mais c'est des joueurs qui ont faim et on peut attendre d'eux justement de belles surprises à mon avis l'an prochain.
Non, mais oui, là, je vous ferai remarquer que là où c'est incroyable comme surprise de la séance, c'est que normalement, quand tu as le nombre de points de Lens à la fin du championnat, tu es champion de France. C'est très, très rare que tu ne sois pas champion de France avec 84 points, quoi. C'est pour
C'est
ça aussi
vrai.
que je disais que bah, finalement, on a un championnat de France qui, par le haut, bah, était une satisfaction. Parce que de voir des clubs comme Lens avoir ce nombre de points-là, c'est quand même quelque chose de, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais. Voilà, il faut qu'on passe à notre deuxième sujet. L'actualité de la semaine, c'est quand même la finale de Ligue des Champions entre l'Inter de Milan et le Manchester City de Guardiola. Manchester City qui va jouer donc pour un triplé historique. L'Inter de Milan qui va jouer pour un doublé, mine de rien. Ils ont déjà gagné la Coupe d'Italie. Donc finalement, ils n'ont pas fait une saison si catastrophique que ça, puisqu'on se souvient que Simone Inzaghi était très discuté à la mi-saison. Finalement, il fait une saison plus qu'honorable. Donc la question, elle est simple. Pour qui la coupe aux grandes oreilles? On va commencer par Dani parce que je connais déjà la réponse de Marc.
Écoute, bon, ça va être un match passionnant, je pense, avec deux oppositions de style. Mais bon, tu l'as dit en introduction. J'ai regardé, je ne sais pas, vous allez peut-être me corriger, mais il n'y a pas d'historique entre les deux, je crois, en match officiel. Manchester City, Inter Milan.
Moi, j'en ai pas trouvé non plus parce que le Manchester City, c'est un club jeune en Champions League.
Ouais, tout à fait. Et donc, ouais, je n'ai pas trouvé d'historique. Ceci dit, compte tenu du parcours de l'un et de l'autre, tant sur le plan du championnat comme sur le plan de la campagne européenne, moi, je donnerais quand même un avantage à Manchester City qui va arriver quand même avec, même si bien évidemment l'Inter va être motivé, c'est pas ce que je vais dire par la suite, mais je trouve que quand même City là, a une énorme motivation, c'est le triplé, quoi. Faire championnat, cup et Ligue des champions. D'un seul coup, pour Pep Guardiola et pour cet effectif, ça va être juste énorme. Et je vois pas comment l'Inter va pouvoir contrer cette ambition. Ils finissent troisième du championnat, l'Inter, quand même, c'est quand même pas mal. Ils ont la meilleure attaque du championnat après Naples. Donc, ça veut dire que c'est quand même un club qui, quand même, on dit toujours, ouais, l'Inter défend bien, mais c'est quand même un club qui attaque très bien aussi. Donc, attention à ce point-là. Maintenant, en fait, j'ai regardé un petit peu au niveau de. J'ai divisé ça en quatre parties, gardien, défense, milieu et attaque. Pour moi, gardien, je mettrais l'avantage à l'Inter. Je pense que Onana, il est au-dessus d'Ederson aujourd'hui, clairement. D'un point de vue de la défense, je mettrais un avantage à City. Je pense que Walker, Diaz, c'est quand même solide derrière, plus que l'ossature que présente l'Inter, de mon point de vue. Au niveau du milieu de terrain, je mettrais un avantage plutôt à l'Inter. Je pense que c'est. En plus, il travaille souvent avec cinq joueurs en milieu de terrain. Donc, ça crée une espèce de densité en milieu de terrain qui leur donne souvent un avantage face à leurs adversaires. Par contre, au niveau de l'attaque, là, clairement, je mettrais un avantage à City. Globalement, je pense que ça va se solder par une victoire de City, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et vraiment, je pense que la raison principale, ça va être la grosse motivation qu'ils ont déjà de gagner la première Ligue des Champions de leur histoire et de faire un triplé.
Marc?
L'occasion est trop belle. Je pense que pour Guardiola, là, c'est. Je pense pas qu'ils se remettent d'une nouvelle défaite, hein, en finale. L'occasion est trop belle. Ils vont faire le triplé. Mais s'il y a une équipe qui peut les embêter, je pense que c'est l'Inter. Ils sont très solides. Très solides à tous les niveaux. C'est une équipe qui sait subir, qui sait souffrir ensemble. Qui défend très très bien. Qui est solide à tous les niveaux. Il faudrait pas pour Manchester que l'Inter marque en premier. Là, ça va devenir très très compliqué. Après, je voyais le match retour de Manchester City contre le Real beaucoup plus compliqué que ce que il s'est passé. Ils se sont mis vraiment en mode rouleau compresseur au match retour. S'ils sont dans ce mode-là, je ne sais pas qui peut résister à ça. Ce sont des vagues, mais continuelles. Je crois que le Real Madrid, en 15 minutes, avait réussi 13 passes au match retour, les 15 premières minutes, là. Ils ont été asphyxiés, littéralement asphyxiés. Maintenant, je pense que les capacités de contre-attaque de l'Inter peuvent faire très, très mal. Donc, je pense que, je ne sais pas s'ils vont se jeter autant dans la gueule du loup, entre guillemets, que contre le Real Madrid, mais s'ils le font, il va falloir être très attentif aux contre-attaques. Parce que n'importe quelle des deux doublettes finalement que l'Inter a, parce que l'Inter a quand même deux doublettes d'attaque qui sont quand même exceptionnelles, que ce soit Correa et puis Lautaro, ou alors Lukaku et puis Dzeko, je veux dire, c'est du lourd. Donc, il va falloir se méfier, être très attentif défensivement, parce que, encore une fois, si l'Inter marque, ça va être très 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 compliqué, s'il marque les premiers, bien sûr. C'est pas si déséquilibré qu'on veut bien nous faire croire.
Je partage un petit peu l'avis de Marc. Je pense que la finale, elle va être beaucoup plus serrée que ce qu'on veut bien dire. Et je ne suis pas totalement persuadé que City s'en sorte. Tu parlais, Marc, de la demi-finale face au Real Madrid, la demi-finale retour et la manière dont le City avait étouffé totalement le Real qui n'arrivait pas à ressortir le ballon. Je ne pense pas que l'Inter du Milan ait la même manière de ressortir le ballon. Parce que le Real, ils ont l'habitude de sortir le ballon en jouant au sol et en jouant vite vers l'avant, notamment dans les espaces qui sont laissés à Vinicius. Sauf que Vinicius n'avait pas d'espace, il était pris par la vitesse de Walker. Et que Benzema, qu'on le veuille ou non, même s'il a un jeu de haut but en pivot qui est pas mauvais, parce que c'est quelqu'un qui a un contrôle de balle qui est supérieur à la moyenne, c'est pas un attaquant en pivot. Et on voit que l'Inter, leur duo d'attaquants, c'est systématiquement un attaquant en pivot, un attaquant dans la profondeur. C'est-à-dire, soit il joue avec Lukaku, Lautaro Martinez ou Correa, avec Lukaku en pivot, soit il joue avec Dzeko, Lautaro Martinez. Donc, je pense qu'ils vont essayer de se sortir du pressing, justement, en balançant des ballons. Ils ont une qualité de passe balancée et pas le bon mot. En jouant des longs ballons sur leur tour de contrôle, qu'elle soit Dzeko ou Lukaku, qui, en pivot, va essayer de faire remonter le bloc. Donc, ils vont être sur autre chose, je pense, que ce qu'a pu proposer le Real Madrid en demi-finale. Donc, ça va être intéressant de voir comment City réagit finalement face à une équipe qui ne va pas jouer tout court, qui va jouer avec des passes assez mixtes. Bon, après, je pense pas que ce soit une surprise pour eux. Ils rencontrent ce type d'équipe quelquefois en première ligue, hein, parce que bon, même si le jeu anglais a évolué, on sait que dans la culture anglaise, il y a toujours ces attaquants, ces target man, comme ils disent. Donc, je pense pas qu'ils soient surpris, mais on sait que dans le temps, c'est des équipes qui ont toujours embêté City. Je veux dire, par exemple, le Tottenham de Pochettino qui élimine City, bah, typiquement, c'est ça. On se souvient très bien, City domine le match et quand Fernando Llorente rentre, tout d'un coup, les mecs s'éteignent parce que justement, le pressing, il est plus opérant parce qu'ils vont vite sur le porteur du ballon, notamment dans les 30 mètres adverses, faire le pressing et le ballon vole et fait 40 mètres d'un coup et la tour de contrôle récupère le ballon. Donc, ça va être assez intéressant. Je pense que le match, je rejoins l'analyse de Dani ligne par ligne, mais je pense que le match, il va se jouer au milieu de terrain. Qui est le point fort de l'Inter de Milan. Si l'Inter de Milan arrive vraiment sur ce point fort-là à garder le ballon un peu plus que ne l'a gardé le Real Madrid ou le Bayern qui s'est fait déborder y compris au milieu de terrain, ça va être compliqué pour City parce que la ligne d'attaque, comme tu l'as dit, l'Inter a une ligne d'attaque qui est quand même hyper efficace. Ils ont des pistons qui sont hyper offensifs. En fait, quelque part, on a deux équipes. On va voir au coup d'envoi, mais je pense qu'on va avoir deux équipes qui vont se présenter quasiment avec le même schéma. Puisque City joue depuis quasiment depuis le match contre le Bayern, City joue à trois derrière. Il va y avoir un système qui va être quasiment en miroir, et c'est le club qui va contrôler le mieux le milieu de terrain et les pistons qui va l'emporter, quelle que soit la qualité de la défense, du gardien et des attaquants en fait. Et je trouve que les deux pistons de l'Inter du Milan ont fait une saison incroyable, que ce soit Dumfries à droite. Ou Di Marco, qui pour moi est la révélation de la saison en Italie, à gauche. Je ne connaissais pas du tout ce joueur. Et il fait une campagne de Ligue des Champions assez exceptionnelle. Donc ça, c'est pour l'analyse purement footballistique. Après, bon, vous savez qu'en football, on s'attache souvent à des trucs qui sont… voilà, des statistiques qui sont pas… qui souvent sont très intéressantes, mais qui ne sont pas vraiment de l'analyse tactique pure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire. Depuis 2013, tous les vainqueurs de la Ligue des Champions avaient un Croate dans leur effectif. Voilà, vous pouvez partir de 2013 de Bayern Munich avec Mandzukic jusqu'à l'an dernier ben, Modric. Voilà, vous avez Kovacic à Chelsea, voilà, vous pouvez les prendre les uns après les autres. City n'a pas de Croate. Voilà, l'Inter de Milan, en revanche, ils ont Brozovic. Donc si la série doit se poursuivre, City perdra. Il y a une autre série qui va faire plaisir à Marc. C'est que depuis 10 ans, les nationalités des entraîneurs qui gagnent la Ligue des Champions vont par 3. Donc voilà, on a eu Zidane 3 fois, donc on a eu 3 Français qui ont gagné la Ligue des Champions d'affilée. Suivi par 3 Allemands, Klopp pour Red et Hans Flick pour le Bayern. Et là, vous avez remarqué que le dernier entraîneur de la Ligue des Champions était italien. Donc la logique, si la série se poursuit aussi, voudrait que le prochain entraîneur vainqueur de la Ligue des Champions soit également italien, ce qui n'est pas le cas, je crois, de Guardiola. Donc, bon, je ne vous dis pas que l'Inter va gagner pour toutes ces raisons qui ne sont pas footballistiques.
Non, par contre, que Guardiola va essayer de se faire naturaliser l'italien d'ici, il a combien de jours là? 4 jours pour se faire naturaliser, puis pour trouver un croate.
Bah, ils sont en train de recruter Kovacic, justement. Mais ils
Ouais.
sont à Ça sera bon pour l'an prochain.
Ouais.
Si la série se poursuit, ça sera bon pour l'an prochain. Mais pas pour cette année. Mais moi, je pense qu'on va voir, pour être plus sérieux, je pense qu'on va avoir une belle finale parce qu'on va avoir une vraie opposition de style, justement, sur le jeu de passe. Moi, j'ai été impressionné depuis le début de la Ligue des Champions sur la mise en place de l'Inter de Milan. Effectivement, comme tu l'as dit, cette manière qu'ils ont de souffrir ensemble, mais qui n'est pas forcément de. Voilà, on a eu ces débats en interne sur le jeu défensif. C'est un jeu
Ouais.
défensif qui est beau à voir, l'Inter de Milan.
Oui,
Contrairement
c'est pas la
à l'AS
Roma.
Roma, voilà, contrairement à l'AS Roma, on n'est pas dans de la destruction et des coups. On a une équipe qui est en place, qui sait bien sortir sur le porteur du ballon, qui sait bien couper les courses. C'est de la défense positive, si je puis dire ainsi. Donc, moi, je ne suis pas persuadé que City ait la tâche facile. Et dernier point pour moi, c'est la fraîcheur physique. Ces matchs-là, ils jouent sur la fraîcheur physique. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, City a joué le dernier match avec l'équipe 1
Ouais.
pour la finale de la Cup. On s'était posé la question justement de savoir qui allait aligner Guardiola sur cette finale de Cup. Il n'a pas fait tourner, il a aligné l'équipe 1 alors que l'Inter Milan, ils ont fait tourner. Donc l'Inter de Milan, ils arrivent hyper frais. Ils ont fait tourner, ils ont aligné une équipe mixte. Mais la plupart des joueurs clés, ils n'étaient pas sur la pelouse ce week-end. Donc à mon avis, ils vont arriver avec un peu plus de fraîcheur. Et c'est le genre de données qui, sur ces matchs du mois de juin, s'il fait chaud, enfin, voilà, ça peut avoir son importance, même si dans le football d'aujourd'hui, on a droit à 5 changements. et que du coup, en gérant bien les cinq changements, c'est quelque chose qui peut s'atténuer. Mais on en a déjà parlé ici aussi. Guardiola, c'est pas un féru des changements. Donc voilà. Si la fraîcheur physique n'est pas du côté de City, ils vont pas pouvoir mettre la même intensité. Ils vont pas pouvoir faire le même pressing. Et je doute que ça passe du coup. Voilà. Mais bon, j'ai une préférence de cœur pour City et je serais bien emmerdé pour faire un pronostic. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Dani.
Non, bah, moi je reviens sur ce que tu disais sur le milieu de terrain parce que je suis d'accord avec toi, ça va beaucoup se jouer à mon avis sur le milieu de terrain parce que l'Inter propose toujours une grosse densité avec cinq milieux. À la différence quand même que City, quand ils ont joué contre le Real propose trois milieux en fait, parce que le Real finalement joue en 4-3-3. Hein. Il joue avec Modric, Kroos et Valverde sur le côté, alors que City propose toujours un milieu avec le piston effectivement, mais il joue en fait avec cinq joueurs devant. T'as Silva, De Bruyne, Grealish et l'autre, comment s'appelle-t-il,
Allende.
Gundogan, et Haaland devant. Mais en fait, tu as quatre joueurs qui sont derrière Haaland, donc qui proposent effectivement une densité au milieu, mais qui aussi proposent très rapidement des solutions au niveau
Oublié De Bruyne.
offensif.
T'as oublié De Bruyne.
Oui, non, j'ai dit Silva, De Bruyne
Vas-y,
et
vas-y. Ah, pardon, pardon.
Gundogan et Grealish.
Pardon, pardon.
Et en fait, c'est ça peut-être qui peut être la clé en fait au niveau du milieu de terrain, c'est que le milieu de City peut proposer en fait plus rapidement des solutions offensives sur les côtés, notamment avec Bernardo Silva et Grealish qui vont quand même assez vite et qui peuvent surprendre l'Inter. Maintenant, l'Inter a un très très bon gardien et ça peut aussi faire la différence.
Je reviens, avant de donner la parole à Marc, je reviens sur le milieu de terrain. Moi, ce que j'aime bien dans le milieu de terrain de l'Inter, c'est qu'ils ont ces trois milieux centraux, et puis ils ont les deux pistons, mais ils ont trois milieux centraux qui sont des footballeurs. Je ne vais pas dire que c'est le carré magique de l'équipe de France, mais c'est des meneurs de jeu qui jouent dans les trois postes de milieu relayeur. Barella, c'est un meneur de
Tu
jeu.
parles de...
Brozovic, c'est un meneur de jeu. Et Salihamudžić, c'est un meneur de jeu. Et des fois, ils ont Mkhitaryan, qui est aussi un meneur de jeu. Donc, en fait, ils ont trois meneurs. Qui jouent milieu centre, qui ne sont pas des milieux défensifs, genre Michael Essien, Mamadou Diarra, ils ne sont pas là pour casser l'adversaire. Ils sont là pour être bien en place défensivement, pour faire le premier rideau, pour empêcher la relance. Et ils sont surtout là pour sortir les ballons. Et ils ont une qualité de passe qui est. Et ces quatre joueurs-là, on verra les trois qui commencent, ils ont une qualité de passe qui est assez exceptionnelle. Marc?
Non, mais on a parlé de l'aspect tactique, on a parlé de tout. Je dirais que l'aspect psychologique est important. Je pense que l'Inter a beaucoup moins à perdre que Manchester City. Donc, ils ont réussi leur saison, quoi qu'il arrive. Le championnat a été très positif. Ils ont gagné la Coupe d'Italie. Ils ont super bien performé. Ils ont éliminé le Milan AC. Ils sont en finale, ils n'ont absolument rien à perdre. Donc, je pense que c'est aussi un élément.
Ouais, dernier point, tu le dis en creux, on en a souvent parlé dans cette émission, la culture club. Quelque part, si City l'emporte, ça serait un vrai événement parce que au 21e siècle, de nouveaux vainqueurs de la Ligue des Champions, il y en a eu un. Sur les 23 éditions depuis le début des années 2000, il y a un seul nouveau vainqueur de la Ligue des Champions, un seul bijou, c'est Chelsea.
Merci.
Il y a aucun club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions qui est arrivé à la gagner dans le 21e siècle, surtout dans la Ligue des Champions, nouvelle formule. Si on prend la Coupe des Champions, à élimination directe où il n'y avait pas de poule, ouais, on avait des surprises comme le Steaua Bucarest, l'Étoile Rouge de Belgrade, etc., etc. Là, avec les poules, c'est vachement plus compliqué. Et l'Inter de Milan, mine de rien, c'est un club historique en Ligue des Champions. Ils ont déjà, je crois, trois ou quatre Ligues des Champions. C'est leur sixième finale. Ils n'ont pas l'habitude d'en perdre beaucoup. Voilà. Il y a cette culture club à un moment donné qui fait que, effectivement, la pression, elle va être sur City. Ils sont là pour écrire l'histoire, comme dirait Grégory Le Marchal. Ils peuvent inscrire pour la première fois
J'y crois
sur
pas.
le trophée. Ouais, la dernière fois c'était Lara Fabian, là c'est Grégory.
Ouais, ah, t'as fait fort.
Donc ouais, moi on voit qu'il y a ce poids de l'histoire souvent dans ces matchs-là. On l'a vu la semaine dernière. On l'a vu la semaine dernière. Objectivement, bon, même si j'aime pas la Roma, Séville fait pas une grosse première mi-temps, ils sont dominés. Et puis finalement, le poids de l'histoire fait que, je sais pas, il y a une histoire entre le FC Séville et la Coupe d'Europe, l'Europa League, qui fait qu'il emporte quoi qu'il arrive. Ben, les mecs
Ouais.
vont emporter, quoi.
Ouais, sauf que, tu vois, c'est un nouveau club, mais c'est un club qui travaille très bien. Ça fait des années que c'est cohérent, l'équipe sportive est en place, ils travaillent vraiment ensemble avec Guardiola, tu vois, Tiki Bergestein. Donc, Ça serait tout sauf une surprise et ça serait, je pense, mérité si Manchester l'emportait cette année.
Alors on enchaîne en prono, Dani. Quel score?
Moi, je vais quand même donner la victoire pour City. Je dirais 3-1 pour
Marc.
City.
2-0 pour City.
Bon, moi, honnêtement, je pense que City va l'emporter, mais pour apporter un peu de contradiction, je vais dire l'Inter de 1.
Ceci dit, Marc, pour terminer sur le pronostic, si l'Inter marque en premier, et ça peut être un scénario, on va assister derrière à du José Mourinho, sauf qu'on dira qu'Inzaghi, c'est un super entraîneur, parce qu'il va se refermer.
Non, 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 parce qu'il sort pas le ballon de la même manière. Tu as bien vu, on va pas faire un débat sur Mourinho maintenant, mais la semaine dernière, c'était du kick and rush à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que dès que le ballon arrivait, poum, c'était un grand coup de savate vers l'avant.
On verra.
Il y avait pas des sorties de balle de la qualité de ce que peut faire l'Inter historiquement, mais on verra.
Si, si,
Comme
si.
on parle de grands coups de pied vers l'avant, je vous propose de faire, ça fait la transition vraiment magnifique vers les demi-finales du
Excellent.
top 14.
Ah.
Sur des magnifiques 50-22. Donc la première demi-finale, c'est le match que tout le monde attend entre le Stade Toulousain et le Racing. Je pense que c'est la plus belle affiche des demi-finales. Donc bah vas-y Dani, je te laisse commencer, parce que tu es supporter du Racing, hein, chacun le sait.
Ouais, bah oui, c'est vrai que je suis supporter du Racing, mais bon, j'ai pas d'illusion, hein. Je pense que sur cette première demi-finale, à mon avis, il n'y aura pas trop de surprises. On l'a vu déjà en championnat, lors des 2 journées où il y a eu des confrontations entre le Racing et Toulouse. Bon, Toulouse l'a emporté sur les deux journées, même si à domicile, le Racing a plus lutté, c'était plus équilibré. Bon, globalement, je me fais pas
Le
trop d'illusions.
stade était sans les internationaux, ce match-là.
En plus, ouais. Non. Sur ce match-là du Racing Toulouse, sincèrement, même étant supporter du Racing, j'ai pas trop d'illusions. Toulouse, cette année, voilà, c'est juste exceptionnel. Ils ont un effectif de fou. Ils ont quasiment à eux seuls plus de la moitié de l'équipe de France. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que si la finale fait entre Toulouse et La Rochelle, on aura quasiment le 15 de France sur le terrain, quoi. Entre Toulouse et La Rochelle, ça, on verra. Ouais, non, sur ce match-là, moi, voilà, je pense que Toulouse va passer contre le Racing. Par contre, moi, je mettrai un bémol sur le match de La Rochelle UBB, parce que faut pas oublier que l'UBB a battu La Rochelle en championnat, alors qu'il jouait à l'extérieur dans la première partie de championnat. En plus, à cette époque-là, La Rochelle jouait avec son effectif complet. Donc, ça prouve quand même que l'UBB a, au sein de son équipe, un effectif qui peut créer la surprise, notamment avec comment s'appelle-t-il, Madoche Tamboué, qui revient fort là, dans l'équipe de l'UBB. Et on sait que dans ces matchs-là, dans les matchs de phase finale, voilà, des fois, c'est des matchs fermés, souvent. Ça peut arriver. Bon, ça va pas être le cas avec Toulouse Racing. Je pense pas, mais le match La Rochelle-UBB, ça peut être un match un peu fermé où ça peut se jouer parfois sur des exploits individuels pour percer la ligne. Et ce genre de joueur peut faire la différence. Donc, moi, sincèrement, sur La Rochelle-UBB, j'ai envie de mettre une petite pièce sur l'UBB. Je sais pas, peut-être la surprise et qui peut aller en finale contre Toulouse.
Donc alors la question qui était exactement, tu l'as rappelé, j'ai mal fait mon lancement. La question qui était, doit-on s'attendre à être finale Toulouse-La Rochelle, à une nouvelle finale Toulouse-La Rochelle? Tu réponds non et tu paries sur une finale Toulouse-UBB.
Ouais.
Ben, moi, je ne vois pas autre chose qu'un Toulouse-La Rochelle. Je pense que Toulouse peut être embêté par le Racing, bien que le Racing, ils sont à leur place et en même temps, ils ont été parfois devancés par le Stade français cette année. Je pense qu'ils étaient plus quatrième que troisième dans le championnat. Ils sont à leur place maintenant. Quand tu vois. Ils ont des internationaux aussi. Le Racing a quand même un effectif solide, mais je vois Toulouse passer sans problème. Et de l'autre côté, La Rochelle, moi, si j'en reviens au facteur psychologique, ils se sentent hyper forts. Ben, ils ont battu la meilleure équipe d'Europe il y a quelques semaines de ça. Ils ont déjà réussi leur saison, ben, du moins en partie. Puis je les vois gonfler à bloc. Donc je ne vois pas autre chose qu'une finale Toulouse-La Rochelle, et d'ailleurs je me réjouis d'une finale Toulouse-La Rochelle.
Bon, alors très honnêtement, moi en plus je serais au Stade de France. Si je pouvais voir Toulouse-La Rochelle, je serais l'homme le plus heureux du monde. Non seulement je verrais Toulouse, mais en plus je verrais La Rochelle, qui a des supporters extrêmement sympathiques. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'UBB. Pour moi qui suis allé voir les deux demi-finales l'an dernier, je n'ai pas trouvé les supporters de l'UBB extrêmement sympas. Mais bon, soit dit en passant. Et on aura effectivement deux des meilleures équipes, enfin quasiment les deux meilleures équipes d'Europe et l'intégralité du 15 de France. Sur la pelouse qui promet un spectacle incroyable. Je pense que les deux demi-finales peuvent être plus serrées qu'il n'y paraît. Alors surtout Toulouse, surtout UBB La Rochelle, comme le dit Dani. Sur Toulouse La Rochelle, sur Toulouse le Racing, on a à mon avis les deux meilleures lignes de trois quarts de France. Donc ça peut être explosif en termes de jeu de trois quarts. Mais comme on le sait tous, le rugby à 15, ça commence devant. Et par contre, devant le Racing, c'est très léger. Enfin, en tout cas, ça m'apparaît très léger, y compris contre le match contre le Stade français en barrage, ou même à 14 et à 7 dans le pack, parce que le Stade français prend un carton rouge dès la 4e minute. En mêlée, ça a été un calvaire tout le match pour le Racing. Toulouse a une qualité, à mon avis, de pack supérieure. Voilà, on vante tout le temps le jeu toulousain. Mais la vraie arme de destruction massive de Toulouse cette année, c'est son pack de c'est son 8 de devant, où quasiment les 8 sont internationaux français. C'est quasiment le pack de l'équipe de France. Le match peut être très très vite éteint par le 8 de devant toulousain. Si le Racing rivalise un petit peu devant, alors là, on va avoir un match de trois quarts qui va être incroyable. Voilà. Évidemment, Toulouse a un léger avantage, un net avantage, on va dire. Et on n'en parle pas, mais c'est encore plus important en rugby, le facteur fraîcheur physique. Voilà, on a vu ces dernières années que les clubs qui ne jouaient pas les barrages, en général, ils étaient avantagés. Donc là, c'est même pas une semaine de plus qu'ils ont. Enfin, c'est un peu plus qu'une semaine. Mais pour la première fois, les barrages ne sont pas joués le vendredi, samedi, ils sont joués le samedi, dimanche. Et donc, du coup, les vainqueurs des barrages, ils ont 6 jours à peine de récupération. Et en rugby, est court. Hein. Alors, sur l'UBB, je voulais quand même en parler avant de parler de l'analyse du match. On a vu dimanche quelque chose de purement scandaleux, c'est-à-dire qu'on arrive en barrage, en quart de finale du plus grand championnat du monde de club, hein, quasiment, puisque aujourd'hui les meilleurs joueurs du monde jouent dans le top 14, et on a une vidéo arbitrage qui ne fonctionne pas.
Ah, c'est
On a
scandaleux.
l'UBB qui se qualifie sur des essais qui ne sont pas valables parce qu'il n'y a pas de vidéo arbitrage. Donc oui, l'UBB mérite en quelque sorte sa victoire parce qu'ils avaient des facteurs X, notamment Temboué, comme tu l'as dit, et Jalibert, qui a quasiment pas joué de la saison. Et qui donc arrive frais comme un gardon sur les matchs qui comptent, qui sont incroyables et hyper en canne, mais enfin, normalement, ils ne doivent jamais passer ce match. Si la vidéo arbitrage n'est pas en panne, jamais ils passent. Le premier essai n'est pas valable. Le dernier, c'est plus que limite parce qu'il y a la roulade. Et le deuxième, il n'est pas valable non plus. Donc, en fait, normalement, il n'y a pas dû avoir match. Et on devrait voir La Rochelle-Lyon. Donc bon, maintenant voilà, ça fait partie des histoires du rugby. Donc on va voir ce qui se passe samedi pour le coup. La Rochelle, normalement, il devrait pas avoir trop de soucis à se faire. Maintenant, c'est la décompression du club après avoir gagné la Coupe d'Europe. Est-ce qu'ils sont surmotivés pour faire le doublé ou pas? C'est dur mentalement de faire le doublé pour la fraîcheur mentale, tu vois. Mine de rien, il n'y a que deux clubs qui ont fait le doublé dans l'histoire du top 14, c'est le Racing Club de Toulon et c'est le Stade Toulousain, donc c'est pas quelque chose de très 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 fréquent. Donc est-ce qu'ils vont avoir la fraîcheur mentale? L'UBB, ils reviennent d'entre les morts. Voilà, on a eu beaucoup de ça aussi dans l'histoire du championnat de France. Le club qui termine sixième, on se souvient qu'ils ont viré Urios en cours de saison, qui était vraiment en galère et qui sur la fin finalement vient coiffer tout le monde parce que sur l'euphorie, etc., etc. Je sais pas, c'est pareil, hein, ça va jouer devant, mais là pour le coup, à mon avis, le match devant, il est équilibré entre le paquet d'avant de l'UBB et le paquet d'avant de La Rochelle. Je dirais effectivement aussi l'UBB. Voilà, mais vraiment très très court, hein, je pense qu'ils vont gagner d'un ou deux points.
Et
Wally
pour Toulouse,
Walou,
et pour Toulouse, t'oubliais contre le Racing, ils vont quasiment jouer à domicile. Hein, c'est à Saint-Sébastien la demi-finale. Donc
ouais,
pour
après,
les supporters,
je sais
c'est.
pas. Alors, honnêtement, nous, on a essayé d'aller voir les demi-finales. C'est très compliqué. Hein. Enfin, c'est très compliqué. On va dire que. Mais c'est pareil. Hein. Bordeaux, à mon avis, ils vont jouer à domicile. Hein. Bon, La Rochelle n'est pas très
Ouais,
loin,
c'est à domicile.
mais.
Ouais.
On va passer à notre dernière séquence. Donc, normalement, on a plusieurs pronos, mais bon, les championnats étant finis, on n'en a qu'un seul. Voilà. Juste après cette émission, vous allez pouvoir déguster la finale d'Europa Conférence entre la Fiorentina derrière moi et le West Ham. Voilà, West Ham de Lucas Paqueta, comme je le disais tout à l'heure. Bon, la particularité de ces deux clubs, c'est qu'ils jouent tous les deux en violet ou en mauve. Une couleur qu'on aime bien à Toulouse. Donc voilà, comment vous voyez cette finale? Quel est votre prono? Je vous avouerai que j'ai un penchant du cœur pour la Fiorentina, mais celle-ci là, voilà, celle avec Costa et
Ouais,
Batistuta.
c'est ça, elle est bien loin cette Fiorentina-là.
Voilà. Mais je suis déjà ravi à l'avance. Je sais qu'il y a un Marocain qui soulèvera la coupe. Voilà, il y a déjà un Marocain qui a soulevé l'Europa League. Il y aura un Marocain qui soulèvera l'Europa Conférence puisqu'il y a Amrabat à la Fiorentina et il y a Aguerd à West Ham. Ils sont tous les deux titulaires. À part ça, je ne sais pas qui joue dans les deux clubs. Voilà. Donc,
Ah ouais,
Marc, on te laisse la parole en
voilà.
premier.
Merci. Merci du cadeau. Putain, la patate chaude. Bah, très honnêtement, ça déchaîne pas les passions chez moi.
Non.
Je dirais que la Fiorentina, bah, ça est très, très éloigné de ce que tu peux montrer derrière toi, Mehdi. Je crois qu'ils ont terminé
Ils ont terminé septième, hein?
8e.
8e. Ouais.
Ouais, mais il y a une
Excuse-moi.
belle hype autour de la Fiorentina. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'entraîneur de la Fiorentina, il est en pole position pour récupérer Naples.
Ah ouais?
Il a la cote
Pourquoi?
en Italie.
Ça joue bien? Ça joue
Apparemment,
bien?
ça joue bien.
Ok.
T'as regardé beaucoup de matchs de la Fiorentina, en
Ouais, vraiment,
fait.
je cache pas que je serais beaucoup moins loquace qu'avec le PSG.
Dans
Heureusement.
3 minutes, c'est ça?
Heureusement, mais très honnêtement, je sais pas pourquoi je vois West Ham qui a fait une bonne saison quand même cette année, si je ne
Non, pas trop,
m'abuse.
non.
Non,
Donc,
pas trop, non, ils finissent
pas trop.
14e.
Ils sont 14e, ils ont été relégués pendant longtemps. C'est pas la
Ils
meilleure
sont à
promo
moins
pour eux.
13.
Et
Ok,
au
bon, bah
Goalavera, ils sont à moins 13. T'as bien suivi le championnat anglais, en fait. T'as suivi que City dans le championnat.
J'ai dû inverser.
T'as
Non,
confondu avec Aston Villa, non? Qui joue en mauve aussi.
à vrai dire, je me fous un peu de ce match. Ça se voit un petit peu. Donc, je n'ai pas vraiment bossé le match.
Ah, tu dois nous donner un
Donc,
score quand même, hein, mais
je peux dire que ouais, le fighting spirit, on va dire West Ham qui gagne ce match avec un Areola de feu. Ouais, non, non, je vois bien West Ham gagner.
ah, tu sais
Mais
qu'il y a Areola quand même. Bon, alors, moi je vais essayer de faire vite. Je pense que ça serait beaucoup plus sympathique si la Fiorentina gagnait, notamment au vu de leur saison. Voilà, on a un club qui a fait une bonne saison dans son championnat. En Coupe d'Europe, West Ham, ça a été beaucoup plus compliqué cette année. Dani l'a dit en creux. Après, je pense que West Ham va être un peu plus motivé parce que je crois que le vainqueur de l'Europa Conférence, il est qualifié en Europa League et que donc, du coup, pour West Ham, c'est la seule chance de récupérer un strapontin européen.
lâche la Corona.
Alors, je pense que la Fiorentina est peut-être qualifiée de nouveau en Europa Conférence en étant 8e ou pas loin puisque les quatre premiers sont qualifiés pour la Champions League en Italie. Donc voilà. Et après, c'est un match qui se joue sur les individualités.
Ouais.
À West Ham, ils ont Paqueta, voilà, qui est un joueur incroyable. La Fiorentina, je vois pas trop d'individualité. Ils ont Amrabat, effectivement, le Marocain, qui lui, pour le coup, est un milieu défensif assez destructeur, qui peut arrêter toutes les attaques de West Ham à lui tout seul. Donc, moi, je donnerais la Fiorentina vainqueur, c'est plus un choix du cœur, 2-0. Mais je ne suis pas convaincu. Et juste une parenthèse, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les deux finales de cette semaine sont donc des finales italo-anglaises. Dani?
Ouais, bah écoute, on a assisté cette année quand même à un retour en force du football italien hein, sur le plan européen, hein, c'est vrai. Faut quand même le souligner, avec des équipes italiennes quand même assez en forme en Ligue des Champions, des équipes italiennes plutôt bien positionnées en Europa League puisqu'on retrouve l'AS Roma en finale qui perd contre Séville. Et ça serait quand même dommage que, au vu de cette vague italienne, qu'on n'ait pas au moins un Italien qui gagne une compétition européenne. Parce que, étant donné que L'Inter, je ne pense pas qu'il puisse passer contre City, on l'a vu tout à l'heure, ou alors qu'il y ait une surprise. Moi, je verrais bien quand même la Fiorentina apporter un titre à l'Italie. La Fiorentina finit 8e. C'est une équipe ouais, plutôt équilibrée. J'ai regardé un peu rapidement les stats en termes de buts marqués encaissés. C'est quand même assez équilibré, alors que West Ham, cette année, c'est quand même une catastrophe. Ils finissent avec moins 13 en termes de goal average. C'est une équipe qui est assez déséquilibrée défensivement. Et face à la Fiorentina, je pense que ça peut basculer en faveur des Italiens. Donc, moi, j'irais plutôt une victoire de la Fiorentina, je dirais 3-1. Et je suis aussi nostalgique de l'époque de Rui Costa.
Alors, moi, c'est plutôt Baptiste Tuta, mais vraiment, les deux ensemble étaient incroyables. Et de Torricelli aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Mourinho Torricelli avec ce boucle à
Mais
main.
oui,
Ah,
mais oui, ouais,
oui.
Torricelli.
Voilà. Donc, une équipe assez incroyable, entraînée par Trapattoni,
Ouais.
dont on a parlé il y a deux, trois émissions. Donc, ouais, ben, est-ce que quelqu'un est capable de me citer le nom des buteurs pour les six
Je crois que moi, je vais passer. Si on aura bien compris que je ne suis pas un spécialiste des deux clubs.
Moi non plus, je suis
Donc,
incapable de citer le nom des
très
buteurs.
honnêtement, non.
Arthur Cabral pour la Fiorentina.
Arrête, tu triches, c'est sur toi l'enfer. Oh là là, je sais même pas qui est ce gars.
Moi non plus.
C'est le frère de Marc, non? Ils ont le même nom de
Ouais,
famille.
c'est ça.
Ouais.
Bon. En tout cas, on vous dit dans la joie et dans la bonne humeur, on espère que vous allez savourer cette finale qui commence dans quelques instants. En tout cas, nous, on est sur le qui-vive, vraiment, on va se
Ah,
régaler.
vraiment,
J'ai déjà ma bière. Donc,
on l'a vu pendant l'émission.
on vous souhaite de très bons matchs, de très belles finales, des belles finales, de belles demi-finales du top 14 aussi. Et on vous dit à la semaine prochaine où on analysera, on fera le débrief de la finale de Champions League, hein, peut-être pas de l'Europa Conférence. Et on se projettera vers la finale du top 14. Et pour faire plaisir à Dani, si elle est toujours en cours, la finale de NBA.
Allez.
Allez, t'as une semaine pour bosser, Marc, sur la finale de NBA. À la semaine prochaine.
Salut à tous.
Allez, ciao à tous.
Bye.
Ciao, ciao.